Bonjour, merci de nous rejoindre en direct sur France Info. Écoutez, je vous propose de filer directement à Moscou. C'est un Infos Éclair entièrement consacré au défilé militaire du 9 mai. On attend le discours de Vladimir Poutine d'ici un quart d'heure. Donc là, on voit la place rouge à Moscou. On va bien sûr décrypter à la fois le défilé militaire et à la fois le discours de Vladimir Poutine que nous écouterons en direct, et il sera traduit bien sûr, avec nos invités, le général Jean-Paul.
Внимание.
Alors, on écoute.
Говорит и показывает Москва.
Alors, on enchaîne, puisque moi, je ne parle pas couramment russe. Le général Jean-Paul Palomeros, vous avez été chef d'état-major de l'armée de l'air, commandant suprême pour la transformation de l'OTAN. Merci d'être avec nous. Bernard Guetta, vous êtes député européen du groupe Renew, spécialiste des géopolitiques. Vous avez été correspondant à Moscou pour le journal Le Monde. Vous pouvez peut-être, d'ailleurs, vous connaissez très bien cet endroit, Bernard Guetta. Oui. C'est la Place Rouge. Alors, c'est un endroit... C'est la forteresse où est le lieu du pouvoir qui est à l'intérieur de Moscou, mais
absolument, c'est comme une ville dans la ville. Voilà. Vous avez le palais du Kremlin qui est très célèbre, cette église fameuse aussi, dont l'érection commémore, si je ne me trompe pas, la victoire de la Russie contre la Pologne. Car imaginez-vous que dans des siècles passés, la Pologne, les troupes polonaises était arrivé jusqu'à Moscou.
Ah oui.
Et oui, oui, oui.
C'est inimitiés sont anciennes dans cette région du monde, entre les Polonais et Russes.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Écoutez, chaque année, il y a le défilé de la victoire depuis 1945.
C'est célébré depuis 1965. C'est Brejnev qui a décidé, pour le 9 mai, d'organiser un défilé militaire.
Voilà. Et dans au temps du communisme, naturellement, les dirigeants du bureau politique, les membres du bureau politique étaient là, debout, sur le mausolée de Lénine.
Et... Ce qui frappe, Bernard Guetta, je vous interromps, on voit le drapeau soviétique, la faucille et le marteau. Alors, c'est parce que...
On l'a vu. Ah, mais c'est parce que... l'ancien régiment.
Et oui, c'est parce que c'était l'Union soviétique qui avait battu l'Allemagne nazie. Donc, c'est pour ça qu'on le ressort à l'occasion de ces célébrations.
Et d'ailleurs, il faudrait souligner que quand la Russie s'arroge aujourd'hui le monopole de la victoire, il y a là une énorme contradiction, parce que l'Union soviétique était composée, certes, de la Russie, mais de bien d'autres nations, peuples qui avaient leurs institutions dans le cadre de l'Union soviétique, en tout cas de bien d'autres nationalités,
l'Ukraine.
Et notamment de l'Ukraine. Et
vous êtes en train de dire que les Russes sont en train de s'arroger le monopole de la victoire sur l'Allemagne nazie en oubliant les Ukrainiens qui ont payé un lourd tribut.
Les Ukrainiens et les autres peuples, mais particulièrement les Ukrainiens certainement. Mais vous savez, il y a un double hold-up. Parce qu'on a l'impression, à entendre M. Poutine aujourd'hui, que seule l'Union soviétique aurait défait l'Allemagne nazie. Non, les Alliés ont défait l'Allemagne nazie. Et les États-Unis, la Grande-Bretagne ont eu un rôle considérable. Et puis, au sein même de l'Union soviétique, encore une fois, d'autres peuples, et notamment les Ukrainiens, ont combattu aux côtés des Russes. Et il n'y avait pas que les Russes, bien loin de là.
Général Jean-Paul Palomeros, on voit un défilé militaire... Est-ce qu'ils sont différents, au fond, de nos défilés militaires du 14 juillet ? Que vous inspire ce genre de défilé ? Il y a peu de pays dans le monde qui font ainsi exhibition de leurs armes à leur peuple. Il y a la France, mais il y a la Russie, je crois qu'il y a la Corée du Nord, il y a Cuba. Finalement, on n'est pas en si bonne compagnie que ça avec notre 14 juillet national. On sait que Donald Trump avait été impressionné par le 14 juillet. Il avait eu l'idée de faire la même chose, de faire défiler à Washington... ces armes.
Nous, notre défilé du 14 juillet, c'est la réunion évidemment du peuple, de la nation avec ses armées, mais ça va au-delà. C'est la Révolution française, c'est la République. Il y a des similitudes. C'est vrai qu'on est fiers de montrer les hommes et les femmes qui défendent notre pays. Ça a un côté moins martial, hein. Je pense que c'est un tout petit peu plus...
Pourquoi le 9 mai et non pas le 8 mai ? On apprend tous à l'école que l'Allemagne nazie a capitulé le 8 mai 1945.
Alors, il y a une raison qui est avancée, qui est un petit peu, à mon sens, anecdotique, c'est qu'il y avait un décalage horaire. Bon, en fait, ça serait la première fois qu'un grand événement n'est pas marqué par l'endroit où il se situe, mais par les conséquences qu'il a dans un autre pays.
Donc, parce que ça a été signé à Berlin le 8 mai à 23h.
Ah, c'est ça. Et qu'en Russie, évidemment, c'était déjà le 9 mai. Mais en fait, je crois que plus fondamentalement, Staline a voulu marquer une date différente pour marquer de son empreinte cette guerre, et déjà avec cette vision que l'Union soviétique avait pris un rôle majeur avec ses 27 millions de morts. Et c'était assez visionnaire de se désengager en quelque sorte de l'ensemble de l'Alliance pour avoir un rôle spécifique.
Bernard Guetta, ça représente quoi le 9 mai pour les Russes, cette victoire de la Seconde Guerre mondiale?
Alors, c'est la victoire de la Grande Guerre patriotique. C'est comme ça qu'on appelle la Deuxième Guerre mondiale en Russie et avant 89 dans toute l'Union soviétique. Et évidemment que c'est une manière, ce rappel annuel est une manière de rappeler le rôle effectivement très important qu'avait eu l'Union soviétique dans la victoire contre les nazis. Mais encore une fois, M. Poutine n'est pas le premier des dirigeants russes à essayer de capter au profit de la seule Russie la gloire de la victoire contre le nazisme. C'est une constante dans l'histoire de l'Union soviétique puis de la Russie. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que l'armée soviétique a été la première à arrêter l'armée nazie à Stalingrad, bien sûr, au prix de combats absolument dantesques, véritablement dantesques. Mais encore une fois, on le disait, ce n'est pas parce qu'ils ont été les premiers dans une bataille qu'ils auraient été les seuls à assurer la victoire contre le nazisme.
Bernard Guetta, j'ai fait le test, moi, à la maison, et j'étais en Angleterre, il se trouve. Quand on demande aux petits Français qui a gagné la Seconde Guerre mondiale, ils vous répondent les Américains. Quand on demande aux petits Anglais, aux petits Français, donc, qui a gagné la Seconde Guerre mondiale, ils vous disent les Américains. Quand on demande aux petits Anglais qui a gagné la Seconde Guerre mondiale, ils disent c'est nous, les Anglais.
Mmh. Et ils n'ont pas tort.
Quand on demande aux petits Russes qui a gagné la Seconde Guerre mondiale, ils disent c'est nous, les Russes.
Oui.
Au fond, c'est ça. Et ils dénient le droit aux autres peuples de s'arroger cette victoire sur l'Allemagne nazie, quelque part.
Oui, mais vous remarquerez que nous, les Français, sommes les seuls à être réalistes. Ce ne sont pas nous, les Français, qui avons gagné la Deuxième Guerre mondiale, mais plutôt, effectivement, les Américains. Pourquoi disons-nous cela? À cause du débarquement. À cause du débarquement, évidemment. Le moment de la victoire, c'est le débarquement, qui était essentiellement américain. Pas uniquement américain, bien loin de là, mais essentiellement américain, bien sûr, c'est vrai.
Et quand Vladimir Poutine, hier, dans son discours, dit « la menace nazie relève la tête », quand il dit « le devoir commun est d'empêcher la renaissance du nazisme », cette victoire, elle entre bien évidemment en résonance avec ce qui se passe en Ukraine.
Oui, mais il y a une phrase qui est absolument extraordinaire dans ses vœux prononcés hier. Par M. Poutine. C'est, je la cite. « Aujourd'hui, nos militaires, comme leurs ancêtres, ceux de la Deuxième Guerre mondiale, se battent au coude à coude pour la libération de leur terre natale de la crasse nazie. » Attendez, là, on ne comprend pas. Parce que les militaires russes, ils ne se battent pas en territoire russe. Ils se battent en territoire ukrainien. Alors, est-ce que M. Poutine veut dire par là que le territoire ukrainien, c'est la terre natale, c'est-à-dire la patrie russe? Première question. Deuxièmement, s'il faut libérer la terre natale, c'est-à-dire quand même la Russie, de la crasse nazie, ça veut dire qu'il y a la crasse nazie dans la Russie d'aujourd'hui. Mais cette phrase est un non-sens absolument invraisemblable. Et puis, bon, ben finalement, on entend ça sans se poser la question. Et il y a deux hypothèses. Ou bien cet homme est complètement à côté de ses chaussures, ou bien il travestit l'histoire avec une effronterie qui est absolument invraisemblable. C'est-à-dire qu'il utilise des mots qui ne correspondent à absolument aucune réalité.
Général Jean-Paul Paloméros, pour essayer de décrypter ce discours hier de Vladimir Poutine, est-ce qu'on pourrait résumer en disant, de son point de vue, l'Ukraine est une terre russe, mais le peuple ukrainien est en train de se faire américaniser, nazifier, comme il le dit, selon ses adjectifs?
Oui, alors d'abord, pour rejoindre ce qui vient d'être dit, je pense que Poutine joue sur un quiproquo de l'histoire avec cette période très troublante entre 1939 et 1941, où l'Union soviétique, faut-il s'en souvenir, était liée avec l'Allemagne par le fameux pacte de Ribbentrop. Et à ce moment-là, effectivement, il y a eu cette ambiguïté sur le rôle de l'Ukraine. L'histoire de l'Ukraine est très troublée. Hein.
Eh oui, parce qu'ils avaient pris les Allemands pour des libérateurs.
Un voilà, peu. En quelque sorte. Hein? Il faut se souvenir que quand même, 7 ou 8 ans avant, Staline avait affamé l'Ukraine lors du fameux Holodomor.
Des millions de morts. Sur ordre de Staline, en Ukraine.
Des transferts, ça rappelle des images qu'on a vues récemment, des transferts du blé ukrainien vers la mer Russie. Donc tout ça, ça rentre dans l'histoire ukrainienne. Et là, il est en train de faire de malaxer tout ça, si vous voulez, pour son objectif. Mais j'ai trouvé que le président Zelensky, par exemple, avait renversé un petit peu la charge de la preuve sur lui en disant « Mais les pratiques nazies, maintenant, elles sont dans votre camp. » Donc, oui, il y a une manipulation de l'histoire. Et le fait, là, c'est pareil, l'amalgame, nazisme, l'Occident.
Ouais.
On voit bien qu'il y a une lutte idéologique qui est réelle, hein, plus que jamais, entre deux systèmes. C'est comme ça qu'il faut le voir. Je pense pas que ça soit utile de parler de nazisme pour décrire le fait qu'on n'a pas la même vision d'une société future et que Poutine n'admet pas que le vent de la liberté et la démocratie souffle à ses frontières. C'est aussi simple que ça, je crois, le problème.
Quand Vladimir Poutine parle de dénazifier Bernard Guetta et qu'on a vu Boutcha et qu'on a vu des horreurs encore hier, une cathédrale avec... une école avec 60 enfants, avec 60 personnes
civil, civil, pas forcément des enfants.
On se dit, il est où le nazisme? Il est à... Les méthodes, en tous les cas.
Écoutez, il est...
Pas de nom d'oiseau, mais...
Il est nulle part. Il y a des crimes de guerre, sans doute des crimes contre l'humanité commis par l'armée russe en Ukraine. Je n'appellerais pas ça le nazisme. Le nazisme, c'est lié à Hitler, au nazisme, d'accord, aux années 30.
Il est dans le 20e siècle.
Il est dans le 20e siècle. On ne peut pas mettre tout dans le même sac. Simplement... mettre tout dans le même sac, comme le fait M. Poutine. Mais je voudrais vous citer une deuxième phrase des vœux qu'il a prononcée hier, M. Poutine. Le président russe a souhaité à tous les habitants de l'Ukraine, alors là, tenez-vous bien, un avenir pacifique et juste. Mais attendez, vous vous rendez compte? Cet homme envahit un pays qui ne l'a pas agressé. Oh, il n'y a pas un soldat, un demi-soldat ukrainien en territoire russe. Bon, cet homme, M. Poutine, fait envahir l'Ukraine par 200 000 de ses soldats, bombarde, sème la mort, la désolation, et il arrive en disant « Je souhaite aux habitants de l'Ukraine un avenir pacifique, pacifique et juste. »
Mais attends. Une autre réalité. Oui, voilà. Un autre monde.
Appelons ça comme ça.
Isabelle Lasserre, vous nous avez rejoint. Je précise que vous êtes correspondante diplomatique au Figaro. Vous avez également été en poste à Moscou, correspondante à Moscou. Je rappelle votre livre, Macron, le disrupteur, la politique étrangère d'un président anti-système, aux éditions de l'Observatoire. Je ne sais pas si vous voyez sur votre écran les images du défilé en ce moment qu'on voit sur la place Rouge à Moscou. Vous connaissez bien cet endroit. Chaque année, on peut dire que le 9 mai, pour les moscovites, on regarde ça à la télé et c'est du spectacle. C'est une journée spéciale, une journée d'orgueil et de fierté. C'est un grand moment pour les Russes.
Oui, c'est le grand moment historique des Russes. Hein. On commémore les 20 millions de morts, la victoire contre le nazisme. Mais ce n'est pas chaque année pareil. C'est-à-dire que c'est depuis quelques années, Vladimir Poutine, qui réécrit littéralement l'histoire, donne à cette manifestation une importance de plus en plus grande et de plus en plus symbolique. C'est-à-dire que sous Vladimir Poutine, c'est aussi devenu, en fait, un défilé de confrontation avec l'Occident, dans lequel on montre ses muscles, et notamment les nouvelles armes militaires censées faire frémir l'Occident. Et là, cette année, encore plus, parce que ce qui est complètement frappant, et de plus en plus, c'est que personne n'a nié la victoire de l'URSS
sur l'Allemagne nazie.
Oui, mais là, Vladimir Poutine, en fait, est en train de s'accaparer à lui seul, c'est-à-dire de prendre en otage quasiment cette victoire contre le nazisme. Il le fait aux dépens des peuples qui, en Occident, ont aussi participé.
On parlait de l'Ukraine tout à l'heure, qui a payé un lourd tribut.
Voilà. Mais aussi, en fait, il considère aujourd'hui que la Russie est l'unique héritière du combat qu'a mené l'URSS à l'époque contre le nazisme. Or, l'URSS était composée...
À... Alors, je vous interromps parce que le maître du Kremlin va parler, Vladimir Poutine, on écoute.
On va être interrompu par Vladimir Poutine.
Alors, on attend néanmoins des choses très importantes hein, lors de ce discours. On redoute notamment Général Palomeros, je parle sous votre contrôle. Pourrait-il déclarer la mobilisation générale? Pourrait-il déclarer la guerre?
Non.
Ce sont évidemment des questions qui se posent. Hein. On écoute.
Chers citoyens de Russie, chers anciens combattants, camarades soldats et marins, sergents et officiers mariniers, aspirants et adjudants, camarades officiers, généraux et amiraux, je vous félicite à l'occasion du jour de la grande victoire, la défense de la patrie, lorsque son destin était en jeu, a toujours été sacré. Avec ce sentiment du patriotisme inné, des résistances mobilisées qui se battaient à Moscou, à Leningrad, à Kiev, Minsk, Stalingrad, Koursk, Sébastopol, Kharkiv, Kharkov. Même maintenant, vous combattez pour nos citoyens, pour nos gens dans le Donbass, pour défendre la Russie. Le 9 mai 1945 marque à tout jamais le triomphe de notre peuple uni, marque cet exploit sans faille au front et à l'arrière. Le jour de la victoire est cher à tout un chacun en Russie. Il n'y a pas une seule famille en Russie qui n'est épargné par cette guerre. Le régiment des immortels maintenant honore les ancêtres. Ils portent les portraits de leurs pères, grands-pères, des anciens combattants qui nous ont laissés. Nous sommes fiers de cet esprit imbattable des vainqueurs. Et notre devoir est de préserver la mémoire de tous ceux qui ont combattu le nazisme et qui ont tout fait pour que plus jamais les atrocités de la guerre ne surgissent. Et malgré toutes les dissonances, la Russie a toujours œuvré pour le système de sécurité indivisible, nécessaire à la communauté internationale. En décembre l'année dernière, nous avons proposé de créer ce système de la sécurité. Nous avons appelé l'Occident pour se joindre à nous, mais tout est en vain. L'Occident n'a pas voulu nous entendre. Cela veut dire qu'il chérissait d'autres projets. Et nous l'avons vu ouvertement. Il se préparait à une opération de représailles dans le Donbass et en Crimée. À Kiev, on parlait des possibles armes nucléaires et l'OTAN se rapprochait de nos territoires. Ainsi, petit à petit, la menace inadmissible pour nous planait au-dessus de nos frontières. Tout montrait que l'opposition à des adeptes de Bandera à des néo-nazis étaient inévitables. Je répète, nous avons bien vu le déploiement de l'infrastructure militaire. Nous avons vu des consultations, des fournitures d'armes. Et la menace grandissait de jour en jour. La Russie a fait tout pour repousser à titre préventif à l'agresseur. C'était la seule et unique décision juste, la décision souveraine du pays indépendant. Les États-Unis, surtout après la chute de l'Union soviétique, ont commencé à parler de leur caractère exceptionnel, en humiliant non seulement le monde entier, mais également des alliés, satellites, qui fermaient les yeux là-dessus et qui avalaient tout cela. Mais nous sommes différents. La Russie a un caractère différent. Nous n'allons jamais renoncer à l'amour de la patrie, renoncer à nos valeurs, aux traditions de nos ancêtres, à l'Occident. Ces valeurs millénaires ont été balayées. Cette dégradation morale est en résultat également de la réécriture de l'histoire. Les victimes de la Seconde Guerre mondiale sont bafouées. Nous savons que les combattants, les anciens combattants qui voulaient venir ici pour commémorer ce jour n'ont pas eu la permission de se déplacer. Mais sachez que nous saluons et nous rendons hommage absolument à tous les anciens combattants américains, français et d'autres, des résistants et des partisans chinois braves, tous ceux qui ont combattu le nazisme. Chers camarades, aujourd'hui, la milice du Donbass avec les combattants russes se battent pour leur terre et sur leur terre. Et les soldats de Potemkin, de Suvorov, de Brusilov, c'est là où les combattants de la Seconde Guerre mondiale, Ludmila Plechenko, se battaient main dans la main. Et je me tourne vers vous, la milice du Donbass. Vous vous battez pour votre patrie, pour son avenir, pour que personne n'oublie les leçons de la Seconde Guerre mondiale, pour qu'il n'y ait pas d'exécutants et sur place. Aujourd'hui, nous chérissons la mémoire éternelle de tous ceux qui sont tombés, les fils, les filles, les maris, femmes, les sœurs, les proches, les grands-pères et les grandes-mères. Nous nous inclinons devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés, qui ont été brûlés vifs à Odessa en 2014, devant les civils du Donbass qui sont tombés sous les tirs des néo-nazis. Nous nous inclinons devant les compagnons d'armes qui sont morts dans ces combats justes pour la Russie. Je vous invite à observer les minutes de silence.
Très surprenant, Isabelle Lasserre, d'entendre que Vladimir Poutine considère que la Russie a été agressée.
C'est le principe tout à fait maîtrisé de Vladimir Poutine des accusations inversées. C'est-à-dire, depuis le début de la guerre, Vladimir Poutine prête systématiquement à ses adversaires ou à ses ennemis, qu'ils soient occidentaux ou Ukraine, des intentions qu'il a lui-même. C'est systématique. Alors là, il va carrément très très loin en suggérant
au-dessus de la Crimée, de possibles armes nucléaires en Crimée et des menaces au-dessus de nos frontières, dit-il.
Oui, alors là, il va encore plus loin que d'habitude en suggérant que c'est l'Ukraine...
Désolé, Poutine reparle.
Je vous repasse la parole juste après. Chacun de nos officiers et de soldats et un deuil pour nous tous et une perte pour les proches. Les sociétés civiles, les entreprises, les régions et l'État vont tout faire pour aider les familles. Nous allons apporter le soutien tout particulier, l'attention toute particulière aux enfants de tous ceux qui sont tombés pour la patrie. Nous avons signé, j'ai signé aujourd'hui le décret en ce sens. Je salue les soldats et les officiers qui sont blessés. Je remercie le personnel médical, les infirmières et les infirmiers pour leur dévouement. Je m'incline devant vous pour vos efforts de défendre et de sauver les vies à vos risques et périls. Chers camarades, ici, sur la place rouge, les soldats et les officiers côtoient les uns les autres en provenance des régions de notre patrie, y compris de tous ceux qui viennent du front, du Donbass. Nous nous souvenons du fait que les ennemis ont essayé de tourner contre nous les bandes des terroristes internationaux pour nous briser, pour nous diviser, mais ils ont échoué. Aujourd'hui, nos combattants de toute nationalité sont unis et défendent les uns les autres de façon fraternelle. Et ça, c'est notre force, la force de l'unité de notre peuple multiethnique. Nous nous battons aujourd'hui pour défendre ce qui a été défendu par nos ancêtres, parce que les chérissaient au-dessus de tout l'indépendance et la sécurité de notre patrie. Tous ceux qui ont vaincu le nazisme dans la grande guerre patriotique, ils nous ont donné une leçon des vainqueurs et nous allons à tout jamais suivre leur exemple. Gloire à nos troupes bien vaillantes. Gloire à la Russie et gloire à la victoire. Hourra!
Alors attendez, je vais peut-être poser une question stupide. C'est l'international communiste, ça?
Non, 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 c'est pas l'international. C'est l'hymne russe.
C'est l'hymne russe.
L'international, on peut vous la chanter, si vous voulez.
Il est beau, l'hymne russe, comme disait Isabelle Lasserre. Commentaire sur ce discours qu'on a tous écouté en prenant des notes. Est-ce qu'on peut dire d'abord, général Jean-Paul Paloméros, que vous aviez raison? Il n'y a pas eu de déclaration de guerre, il n'y a pas eu de mobilisation générale, il n'y a pas eu
de surprise,
d'escalade dans cette guerre qui malheureusement tous les jours est de plus en plus atroce.
Non, mais il n'y a vraiment pas eu de surprise. Poutine exalte la grande Russie, la grande guerre patriotique, et surtout il a en permanence associé le passé et le présent. Il a fait mixé le présent et le passé. Et alors, j'ai remarqué aussi qu'il a vraiment focalisé sur le Donbass. Il a parlé au moins du Donbass 5-10 fois pour localiser, pour justifier finalement d'une opération locale. En prévention, évidemment, d'attaques qui sont chimériques, mais d'attaques... Voilà. Donc, il n'y a vraiment pas de surprise. Je dirais presque jusqu'à dire que c'est un peu décevant parce que c'est vraiment du Poutine très classique... L'OTAN vient nous attaquer, l'OTAN néo-nazi, l'Ukraine. Il parle de résistants de Bandera qui était effectivement qui a travaillé avec les nazis, mais qui a été aussi exécuté par les nazis par ailleurs. Mais enfin, il y a un mélange, il y a une utilisation de l'histoire quand même qui est assez effrayante, et ce qui prouve que nous-mêmes, il faut qu'on apprenne l'histoire à nos enfants, parce que sinon, ils n'y comprendront plus rien. Je crois que c'est important. Il a parlé aussi d'Odessa, là, je ne sais pas quelle.
Mais dire que s'il se comporte ainsi, et si le peuple russe le suit ainsi dans son opération spéciale, c'est parce qu'elle connaît mal son histoire, ou elle l'a appris d'une façon dévoyée.
J'ai peur qu'elle la connaisse trop bien, qu'elle connaisse trop bien l'histoire racontée par Poutine, mais qu'elle oublie totalement la réalité de l'histoire, qui est évidemment beaucoup plus complexe et qui met des voiles d'ombre, évidemment, dans toute histoire, y compris la nôtre. Mais la période entre 1939 et 1941, le fait que les Russes aient affamé les Ukrainiens dans les années 30. Tout ça, ça dépend de l'histoire, évidemment, dont on ne va pas parler aujourd'hui. Ouais. Et la réalité de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine n'est pas du tout reflétée dans le discours de Poutine. Je ne parle même pas des difficultés que rencontre l'armée rouge. Il a quand même parlé des blessés. Il a parlé des morts et des blessés. Ce qui prouve que, quelque part, il justifie des pertes que subissent les familles. Donc, c'est un discours classique de M. Poutine, sans surprise, mais qui ne donne pas beaucoup d'espoir non plus pour le futur.
Bernard Guetta.
Écoutez, moi, ce qui m'a frappé, c'est, un, la justification de la guerre. Pour la première fois, il parle de guerre préventive, en expliquant que, voilà, que les menaces s'accumulaient, qu'on voyait les livraisons d'armes, ouais, les ceci, les cela, etc., etc., et que donc, il fallait véritablement...
Les armes nucléaires en Crimée.
Oui, alors il a, ça, on ne comprend pas très bien, parce que la Crimée... autant qu'on sache, depuis 2014, est contrôlé par la Russie. Alors, c'est exactement comme quand il parlait dans ses vœux hier de la crasse nazie dans notre patrie. Alors là, on ne comprend pas de nouveau. Il y a la crasse nazie en Russie, il y a des armes nucléaires dans la Crimée
annexées
par la Russie. Mais continuons sur le discours. Donc, la guerre est préventive. Comme vous, général, j'ai été très frappé par le fait qu'il rend hommage à nos soldats qui viennent du front, virgule, du Donbass. C'est-à-dire que, brusquement, tout le théâtre des opérations, si ce n'est la guerre en entier, se résume au théâtre du Donbass et plus à l'Ukraine, dont le nom, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, n'a pas été prononcé. C'est ça, n'a pas été prononcé une seule fois.
On a parlé de Kiev.
De Kiev.
Voilà, c'est ça.
De Kharkiv. Il est quasiment effacé des manuels scolaires.
Exactement,
aujourd'hui,
voilà.
Donc.
Ce pays n'existe plus. Et alors, ce qui est absolument extraordinaire aussi, c'est qu'il ne dit rien. Mais alors là, rien de l'état des combats, de l'état des opérations, de ce qu'on va faire, etc. Mais en revanche, pour la première fois, vous aviez bien raison de le noter, de le souligner, général, eh bien, pour la première fois, on parle des morts, on parle des blessés, on parle des orphelins, des orphelins dont la patrie va s'occuper. On rend hommage aux infirmières et aux médecins qui soignent les blessés au prix d'un danger pour leur vie. Mais où va la Russie maintenant ? Pas un mot. Où en est cette guerre ? Pas un mot. Bref, c'est un discours pour ne rien dire.
Mais Isabelle Lasserre aussi, ce discours, il s'insère dans une propagande russe où on explique au peuple russe que tout va bien, que l'opération spéciale...
Je ne sais pas si on leur explique que tout va bien, mais on leur explique que...
Il n'y a pas besoin de faire de mobilisation générale.
Dans le creux, c'est si ça va mal, c'est parce qu'on est attaqué. À cet égard, j'ai trouvé, moi je suis très très étonnée par ces propos sur la Crimée et le nucléaire, la menace occidentale nucléaire en Crimée, parce que c'est, encore une fois, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en 2014, quand la Russie a annexé la Crimée, Vladimir Poutine, dans un discours à la télévision, avait sous-entendu que si l'Occident d'aventure avait voulu s'opposer à cette annexion de la Crimée, qui pour lui est russe, il aurait utilisé l'arme nucléaire. Donc une fois, en fait, cette espèce de ces accusations inversées sont dans absolument tous les domaines. Et là, ça paraît complètement absurde, mais totalement absurde. Là, on confine au c'est absolument incroyable. Et en fait, tout est à l'envers, c'est-à-dire que l'Occident a menacé la Russie de Vladimir Poutine militairement, nucléairement, voilà. Donc, en fait, il inverse complètement, il fait de la Russie un pays victime qui est dans son bon droit et qui, pour se défendre et défendre ses valeurs, doit forcément se battre avec cet Occident. L'Ukraine a disparu non seulement parce que, en fait, il est en train de nier le caractère ukrainien de l'Ukraine. Il y a eu ce terme qui a été employé il y a trois semaines, la nécessité de désukrainiser l'Ukraine par un des idéologues du Kremlin, parce que cette Ukraine veut se rapprocher de l'Occident, veut s'éloigner du modèle russe et du Kremlin. Mais c'est aussi une manière, quand on ne parle plus de l'Ukraine, de révéler que la vraie opposition de Vladimir Poutine, elle est aussi vis-à-vis de l'Occident. C'est-à-dire que là, on dépasse le caractère ukrainien. C'est la guerre d'un... C'est-à-dire qu'il y a d'une part la guerre contre l'Ukraine et la nécessité de restaurer cet empire ou cette enfin mélange de d'empire et d'Union soviétique dans le ce que Vladimir Poutine considère toujours comme le proche étranger, mais aussi cette affirmation des valeurs russes et du modèle russe qui sont supérieurs au modèle occidental. Il en a parlé. Il a dit entre les lignes que le modèle occidental était dépravé et que l'Occident avait en quelque sorte renier ses valeurs. De quoi il parle là? Il parle de la démocratie, des manifestations, des homosexuels en Occident, etc. Il parle de tout ça. Et là, entre les lignes, il projette la supériorité, selon lui, du modèle russe qui, lui, reste fidèle à ses valeurs. Et ses valeurs, ce sont les valeurs de 1945, les valeurs de la lutte contre le nazisme. Et le peuple russe, lui, a tenu bon et est resté ce qu'il a toujours été.
Bernard Guetta, justement, on s'interroge. L'ennemi à abattre, c'est qui? Ce sont les Ukrainiens, enfin les Ukrainiens nazifiés, ou c'est l'Occident? Parce que, comme le disait Isabelle Lasserre, il a rendu hommage aux combattants français qui sont tombés, aux combattants américains. Mais il a dit, depuis, l'Occident a été dévoyé par certaines valeurs dépravées, etc. Et est-ce qu'au fond, derrière cette guerre en Ukraine, certains disent, on a un affrontement Est-Ouest? Et quand le secrétaire d'État américain à la Défense dit... ne parle plus d'aider l'Ukraine, mais je le cite, hein, il faut affaiblir la Russie, on a l'impression que les deux pays se sont...
Il faut affaiblir la Russie pour qu'elle ne puisse plus jamais procéder à des opérations de ce genre.
C'est vrai.
Non, il faut citer
la deuxième partie.
La deuxième partie.
Plus importante que la première.
Mais bien sûr.
Mais c'est quoi? C'est une guerre en Ukraine ou ce sont les deux blocs qui se retrouvent en opposition?
Non, écoutez, si vous me permettez, je crois que vous rationalisez trop. Vraiment. Parce que moi, j'ai entendu ce très très bref discours, c'était quoi, 10 minutes à peu
près ? Très low profile.
Oui, très très low profile. Et véritablement, j'en reviens à ce que je vous disais au début de l'émission à propos des vœux. Je ne sais plus si cet homme est totalement à côté de ses chaussures, s'il croit à ses mensonges absolument invraisemblable, ou s'il ment cyniquement. Je ne sais plus, mais comme le roi Dagobert, il a mis sa culotte à l'envers. Enfin, ça ne va plus du tout.
Alors, Vladimir Poutine est-il un psychopathe? Écoutez, on va essayer de rentrer dans la tête de Vladimir Poutine avec des personnes qui l'ont côtoyé, qui ont négocié avec lui, qui ont ferraillé avec lui. Regardez ce reportage, on va entendre ce que pense François Hollande et comment il a négocié avec le personnage. C'est un sujet de Sophie Brune qui nous fait entrer dans la psychologie de Vladimir Poutine. On regarde.
C'est un chef d'État toujours plus difficile à comprendre. Pour tenter de percer le mystère Poutine, nous avons sondé des personnalités qui l'ont côtoyé à différents moments de sa vie. Sylvie Berman, ancienne ambassadrice à Moscou.
Effectivement, il donne une impression de force, il dégage une impression de force.
François Hollande, qui a négocié pied à pied pendant 16 heures avec lui, les accords de Minsk. Et Vladimir Fedorovski, ancien diplomate russe, qui le connaît depuis les années 90.
La première clé, si on permettait de revenir, c'est son enfance. C'est un enfant abandonné de Saint-Pétersbourg, quasi abandonné de Saint-Pétersbourg. Il était formé par les règles de la pègre de Saint-Pétersbourg. Si vous commencez la bataille, et si la bataille est inévitable, il faut l'engager et gagner cette bataille. Aller jusqu'au bout, son jusqu'au boutisme dans la période actuelle, c'est sa nature.
Tant qu'il n'est pas contraint de reculer, il avance. Il a toujours la même méthode, le rapport de force. Jauger si ses adversaires ou ses partenaires ont une position qui peut lui être favorable ou défavorable.
Depuis son arrivée au Kremlin il y a plus de 20 ans, l'ancien enfant des rues passé par le KGB est devenu expert dans l'art de déstabiliser son interlocuteur. Quel que soit le terrain, il le prend par surprise, à la manière d'un judoka sur un tatami.
On a parlé du sport pendant nos rencontres. Il disait que le judoka, il ne bouge pas. Mais quand l'autre bouge, il a déjà bougé.
Vladimir Poutine, il essaye d'impressionner. À la fois par une ouverture, une forme même de séduction, ce qui peut surprendre. et une dureté qui surgit à un moment où on ne l'attend pas nécessairement. Alterner le chaud et le froid, j'allais dire le brûlant et le glacial.
Les chercheurs russes que je rencontrais disaient que Poutine était une boîte noire et qu'en réalité, on ne sait ce qu'il veut faire que quand il l'a fait. C'est comme un accident d'avion, vous ouvrez la boîte noire pour savoir ce qui s'est passé.
Un homme imprévisible, à tel point que depuis l'invasion de l'Ukraine, certains s'interrogent. Vladimir Poutine aurait-il perdu la raison?
Je ne partage pas du tout cette idée que Vladimir Poutine serait devenu fou, qu'il serait malade, qu'il serait devenu paranoïaque. Il a toujours, depuis 20 ans, le même objectif, reprendre le contrôle de tout ce qui a été perdu lors de l'effondrement de l'Union soviétique.
J'ai vu son dossier au KGB. Vous savez, le principal reproche que le KGB faisait à lui, qu'il ne prend pas en compte suffisamment le danger, qu'il est imperméable face à danger.
Insensible au danger, jusqu'où ira-t-il? Personne n'a aujourd'hui la réponse.
Isabelle Lasserre, on disait du temps de l'Union soviétique qu'il y avait quand même un politburo, il y avait une organisation. On a l'impression là qu'on est face à un homme qui décide seul, sans contre-pouvoir, et dont on s'interroge sur la rationalité.
Alors ça, le fait qu'il décide seul et sans contre-pouvoir, je pense que c'est plus qu'une impression. Ça, on peut le dire avec certitude. Effectivement, le politburo avait quand même une fonction de modération du patron.
Il a eu la tête de Khrouchtchev, non?
Ouais, absolument. Voilà. Donc, le politburo pouvait aller jusqu'à conseiller la destitution du président si c'était plus. Là, c'est vrai que Vladimir Poutine n'a pas de politburo. Il est lui-même le Politburo, il est lui-même le KGB. Le KGB est au pouvoir et est représenté par un seul homme tout puissant, extrêmement autoritaire. C'est lié à plusieurs choses. Hein. La différence avec l'époque soviétique aussi, c'est que Vladimir Poutine s'est complètement approprié les richesses du pays, de toutes les grandes entreprises. Et donc il est il a un pouvoir tout puissant sur les forces de sécurité, le côté militaire, puisqu'il est patron du KGB, sur le côté politique et aussi sur le côté économique. Donc effectivement, on dit qu'il décide seul, tout seul, et ça en fait un espèce de pouvoir absolu. Sur la rationalité, alors là, moi, je suis comme Bernard Guetta, c'est-à-dire que je ne comprends plus. Au début, Vladimir Poutine était quand même rationnel. Alors c'est une rationalité particulière, mais quand on se met place du Kremlin, on comprend cette rationalité russe. Il détaillait d'ailleurs pas forcément imprévisible, puisqu'il suffisait, depuis très longtemps, il suffit d'écouter ses discours et de les lire pour savoir quels sont ses buts et ses objectifs. Donc tout était finalement assez logique. C'est l'Occident qui n'avait pas voulu voir et comprendre, et qui est dans sa rationalité occidentale, ne peut pas comprendre qu'on puisse avoir envie de récupérer, de restaurer l'Empire et une partie de l'Union soviétique. Aujourd'hui, même l'Ukraine d'ailleurs, tout ça est quand même assez rationnel. Pas le fait de déclarer la guerre à l'Ukraine, mais de passer de prendre compte de la réalité et après avoir échoué à Kiev, de recentrer les combats sur un objectif qui paraissait
plus simple,
beaucoup plus atteignable, le Donbass. Mais là, effectivement, on ne comprend plus. On ne comprend plus parce que il va tellement loin dans le mensonge. Alors le KGB, le mensonge est inhérent au KGB. Poutine, quand on discute avec certaines personnes qui l'ont connu, moi j'ai discuté avec un oligarque il y a trois jours qui l'a connu très très bien et qui dit en fait Vladimir Poutine depuis le début, ce qui le caractérise selon moi, c'est le mensonge, c'est l'utilisation du mensonge. Donc ça on le sait depuis le
début. Il ne croit pas à ce qu'il dit quand même à son discours. Il sait qu'il ment.
Mais j'en sais rien.
Vous posez la question.
Alors en fait. C'est-à-dire que le mensonge a l'air tellement consubstantiel de sa personnalité qu'au début, que la fin, on ne sait pas. Peut-être qu'il croit absolument à ce qu'il dit. Je ne sais pas.
Général Palomeros.
Je pense qu'à partir du moment où on rentre dans des systèmes idéologiques, des systèmes de valeurs très différents, on peut avoir tendance à s'enfermer dans son système. Et comme le système de Poutine est très fermé, effectivement, il tourne en boucle. Et il tourne en boucle en s'auto-alimentant, en disant... C'est vraiment la seule manière qu'on a de préserver la Grande Russie, c'est ce qu'il est en train de faire. Je pense qu'il en est
de l'Ukraine un tampon et de ne pas l'avoir dans l'OTAN.
L'Ukraine, c'est la, je dirais, la mère de toutes les batailles, quelque part. C'est sa grande cause. C'est sa grande, la grande cause de son... On ne parle plus de quinquennat, je ne sais plus comment on peut décrire...
Il est là jusqu'en 2036. Hein.
Voilà, c'est ça. Bah, c'est au moins
potentiellement.
Attendez, il peut encore, magouiller.
Oui, ça simplifie le processus démocratique. Non, je crois que c'est ça. C'est un système qui tourne sur lui-même. Et ce qui est important pour l'avenir, c'est que on voit pas bien ce qui va changer cette logique. Donc ça veut dire que l'échec. En contrepartie, nous, alors, l'échec. Mais est-ce que c'est un effondrement? Auquel cas, ça pourrait avoir aussi de graves répercussions. Il n'y a pas vraiment de voix qui soit très optimiste, si ce n'est celle en contrepartie de l'Europe qui doit se réaffirmer comme étant unie avec ses valeurs démocratiques, sans ambition d'agresser qui que ce soit. Elle doit le démontrer, mais pour ça, elle doit montrer aussi sa force. Je crois que c'est ça la grande leçon de tout ce discours. Il ne sortira pas de ce discours. Écoutez, faisons avec. C'est une autre ère qui s'ouvre encore, qui est ressemble à une sorte de guerre froide. C'est lui qui a voulu s'imposer. Travaillons sur le long terme, regardons où sont nos dépendances, et puis montrons la force aussi de nos démocraties, de notre Europe, pour que Poutine sache qu'il a affaire à un ensemble constitué, solide, robuste, et qu'il pourrait craindre.
Bernard Guetta, l'échec est-il une option ? Est-ce qu'on peut imaginer un Vladimir Poutine, bon, bah, qui n'a pas réussi, puisque maintenant on parle de la victoire de l'Ukraine, qui rentre chez lui avec ses soldats et sa défaite, et qui dit, bon, bah, désolé, j'ai perdu.
Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? Lancer des bombes atomiques sur Washington,
Paris, c'est ce que j'allais vous dire. Bah, écoutez, le patron de la CIA qui dit, attention, tout est possible.
Oui, mais c'est vrai, théoriquement, il a un bouton, il peut appuyer, il y a une rayée de carte, comme le proclame sa télévision, avec des rires gras des présentateurs. C'est une chose invraisemblable. Ces présentateurs qui, voilà, oh, on va...
En 200 secondes, on va rayer Londres et Paris.
C'est absolument invraisemblable. Mais vous savez, je voudrais revenir au problème du mensonge. Il y a deux sortes de mensonges. Vous êtes un homme d'État, un dictateur, et vous dites, mais pas du tout, je n'ai jamais fait assassiner le moindre opposant. Bon, d'accord, c'est un mensonge, on comprend. Il ne dit pas vrai, voilà. Mais le même homme qui vous dit, ah non, ça, c'est pas une table, non, c'est un dromadaire. Alors là, qu'est-ce que vous faites devant un homme qui vous montre une table et qui vous dit, non, c'est pas une table, c'est un dromadaire. Alors là, vous vous dites, il est fou, il veut me rendre fou. Parce que ça aussi, il y a cette hypothèse-là. Il veut me rendre fou, il veut me désarmer, ou bien il est dans un tel désarroi qu'il en fume. Vous connaissez ce mot, un peu vulgaire, pardonnez-moi, mais qui est très très expressif. Il en fume. C'est-à-dire qu'il y a une telle fumée dans la pièce qu'on ne s'y retrouve plus. Mais je vais vous raconter une anecdote, elle est relativement connue. Pendant, sur Poutine, pendant qu'il négociait avec M. Hollande et Mme Merkel les accords dits de Minsk sur le Donbass, Mme Merkel lui dit à plusieurs reprises, mais quand même, tu as, parce que ces chefs d'État, ils se tutoient, je n'ai jamais compris pourquoi, mais enfin c'est comme ça, mais tu as des soldats dans le... Jamais, pas ouais. Du tout, etc., etc. Alors finalement, elle sort de son sac ou de sa poche une photo et lui montre
des soldats russes. Et il a dit que c'était un montage.
Il regarde, pas du tout, il regarde et il dit, ils ont dû s'égarer.
Ah.
Ils ont dû s'égarer.
Ouais. C'est très difficile de discuter avec quelqu'un quand on...
On en revient à ça. C'est pas une table, c'est un dromadaire. Qu'est-ce que vous faites,
Général Jean-Paul Pommerès, oui. Est-ce que vous pouvez nous décrypter les... Alors là, on voit des tanks. Quelles sont ces armes qu'on voit circuler sur la place Rouge ? Et que penser d'ailleurs de cette grande armée héritière de l'armée soviétique ? Et de son équipement, de ses soldats, de sa discipline, de sa logistique ?
Et là, on est dans un magnifique paradoxe. C'est-à-dire que M. Poutine fait défiler la glorieuse armée rouge, et elle respecte beaucoup, peut-être trop, et cette glorieuse armée rouge, elle est quand même... Elle est confrontée à l'armée ukrainienne, elle montre ses faiblesses. Ses faiblesses, elles ne viennent pas uniquement des capacités, là, qu'on voit. Enfin, ça, c'est des armements. Après, vous savez, une action militaire, pour qu'elle soit efficace et utile, il y a trois ingrédients. Il y a la stratégie, d'abord. Depuis le début du conflit en Ukraine, la stratégie de de Poutine est vacillante, même si elle a eu l'air de se reconcentrer dans le dernier point. Il y a, deuxièmement, les capacités. Mais les capacités, ce n'est pas uniquement des chars qui défilent. Il faut qu'il y ait des munitions. Et puis, il faut que ça rentre dans un tout cohérent, qui est une logique, une stratégie. C'est-à-dire, pourquoi faire? Quels sont les objectifs? Et dernier élément, il y a quand même le moral des troupes. Alors là, ça semble magnifique. Ils défilent tous. Mais lorsqu'ils sont au front, ce n'est pas la même chanson, surtout dans un combat qu'eux ne comprennent pas. C'est ça le fond du problème. M. Poutine a beau faire tous les beaux discours, pas persuadé que les jeunes qui défilent aujourd'hui et qui vont se retrouver au Donbass ou à proximité du Donbass, qui vont rencontrer des Ukrainiens qui les voient plutôt comme des envahisseurs que comme des libérateurs, ils comprennent bien la cohérence qu'il peut y avoir d'un côté, la défense de la mer Russie.
C'est ce qui explique, selon vous, les difficultés de cette armée russe, c'est quoi?
C'est l'ensemble. Il ne suffit pas d'avoir une somme d'armement pour faire une armée.
Ouais.
C'est un tout. Il y a l'entraînement, sans doute un manque d'entraînement. Je pense aux forces aériennes russes en particulier. Manque d'outils, de coordination. Il y a un vrai problème de commandement et contrôle. Mais ça repose sur la confiance qu'on peut avoir. Vous voyez, le commandement, c'est la confiance entre un décideur, un commandeur militaire et des troupes. Et c'est réciproque.
On a parlé de l'absence de commandement intermédiaire.
Il manque un corps intermédiaire. Chez nous, les sous-officiers constituent vraiment le...
Qui tient ses troupes, quoi.
Ce sont les sachants, ce sont ceux qui entraînent les troupes au combat, ce sont ceux qui forment. Et effectivement, les Russes n'ont pas cru bon de former. Ils n'ont pas été non plus confrontés aux autres armées comme on peut l'être au sein de l'OTAN, par exemple. Moi, j'ai eu grand plaisir à entraîner les forces de l'OTAN pour créer cette synergie entre ces forces. D'ailleurs, on a formé les Ukrainiens depuis 2014, hein, et ce n'est pas un hasard qu'ils atteignent ce niveau. C'est grâce à leurs compétences, à leur intelligence, à leur savoir-faire, mais c'est surtout aussi grâce au fait qu'ils se sont frottés à d'autres pays qui ont travaillé sur leur interopérabilité.
Entre alliés, on se donne des tuyaux,
bien
et
sûr,
les Russes,
c'est ça l'objectif. C'est ça,
les Russes, eux, ils sont tout seuls.
Ils sont seuls, ils se sont enfermés dans leur idéologie militaire, ils se sont enfermés dans leur concept. Ils sont allés, c'est vrai, en Syrie, mais c'était très particulier. Et là, ils sont confrontés à une guerre qu'ils n'ont pas préparée. Et d'ailleurs, même la plus grande armée au monde aurait les plus grandes difficultés aujourd'hui à remplir les objectifs tels que Poutine se les était fixés initialement. Enfin, envahir l'Ukraine dans son ensemble, etc.
C'est plus vaste que la France. Hein.
Bien sûr, c'est plus vaste que la France. Donc il a espéré que l'Ukraine tombe comme un château de cartes. Ça n'a pas été le cas, fort heureusement. Maintenant, il est contraint à concentrer sa stratégie sur le Donbass avec de vraies difficultés, malgré tout.
Isabelle Lasserre.
Oui, moi, je rajouterais une chose qui est l'affrontement des volontés. Et la volonté à Moscou, elle existe chez les dirigeants politiques et chez Vladimir Poutine. Donc il y a une volonté politique. La volonté des soldats, c'est beaucoup plus...
Personne n'a envie d'aller au front. Hein.
Alors que du côté ukrainien, il y a un mental incroyable. Il y a une volonté extraordinaire parce que ils défendent leur pays. C'est une guerre patriotique. Et ils défendent en plus des valeurs qui sont les valeurs de la démocratie et de la liberté. Parce que ce dont parlait Bernard Guetta, l'enfumage, ça marche très bien en Russie. C'est une des raisons pour lesquelles aussi Vladimir Poutine continue. C'est-à-dire qu'il y a une grande majorité des Russes qui est sans doute absolument persuadé, effectivement, que c'est l'Occident qui attaque la Russie et que la Russie doit se défendre. Mais ça marche tellement bien que le jour où les soldats russes arrivent en Ukraine, ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on les a enfumés. On leur a dit, il faut aller libérer vos frères des nazis. Attention, l'Occident nous attaque. Et d'un seul coup, ils se retrouvent dans une nouvelle réalité. Et là, l'enfumage, il part en fumée. Ça a un effet incroyable sur la volonté des soldats.
Jean-Paul, Général Palomeros, ce sont des missiles que l'on voit.
Oui.
On sait que Vladimir Poutine a réalisé un test de ces missiles hypersoniques capables d'atteindre des 10, 20 000 km/h et indétectables tant il est rapide et il change de direction. Est-ce que là, pour le coup, et il le dit, et il le sait, il le dit dans ses discours, en matière de missiles, je suis imbattable, méfiez-vous.
Alors, il est imbattable, méfiez-vous. De toute façon, il ne faut jamais sous-estimer un adversaire potentiel. Donc, partons du principe que ces missiles... Moi, ce que je remarque, malgré tout...
Vous les connaissez, ces missiles-là? Alors, on dit qu'il y a certains missiles qui vont défiler, qui peuvent emporter les ogives nucléaires.
Oui, bien sûr, comme les nôtres, d'ailleurs, me semble-t-il.
Ouais.
Non, c'est pas le fond du problème. On ne sait pas si ces réservoirs sont pleins ou vides. Ces conteneurs sont pleins ou vides. C'est pas ça. Je pense que la question... D'abord, ce qu'on constate, c'est qu'en termes de missiles, il y a beaucoup d'échecs, quand même, en particulier dans la stratégie aérienne. On sait, ils n'ont pas beaucoup d'armement de précision, contrairement à nous, à l'Occident, qui a mis un accent très, très, très...
C'est-à-dire les armements de précision.
Et ben, c'est-à-dire que pour atteindre un objectif militaire avec précision, en évitant...
Pour abattre un avion ou écraser un tank, il faut un missile,
Oui, Javelin, mais même, là, par exemple. Même de manière générale, vous attaquez un objectif stratégique militaire, mettons une voie ferrée, tiens, puisque c'est à l'ordre du jour. Là, vous avez deux solutions. Soit vous employez la force brutale et vous admettez des erreurs et des écarts comme on en voit tous les jours, en admettant que ce soit des erreurs contre une école ou autre. Donc ça, c'est la guerre à l'ancienne. C'est on écrase, on bombarde et on se soucie assez peu des dommages qu'on inflige. Ou alors, vous rentrez dans une guerre plus moderne, avec des objectifs beaucoup plus ciblés, en essayant de limiter au mieux tout ce qui ne concerne pas directement votre stratégie militaire. Mais pour ça, il faut des armements. Il faut d'abord l'entraînement, il faut l'équipement, il faut la technologie, il faut des armements très précis. Et aujourd'hui, le pourcentage d'armements très précis dans les armées occidentales, et en particulier l'armée française, c'est complètement inversé. C'était peut-être 30% il y a 15 ans, 20 ans. C'est 70-80% aujourd'hui. Donc, mais ça, Poutine ne l'a pas. En plus, il y a eu beaucoup de missiles qui n'ont pas fonctionné. Donc il y a un vrai problème de fonctionnement de l'armée russe. C'est un problème de cohérence. Il faut des pièces de rechange, il faut de l'entraînement, il faut que tout ça soit testé. Et ce n'est pas uniquement sur la place rouge que ça doit être démontré, c'est dans les combats. Or, dans les combats, il y a le nombre, hein, c'est sûr que plus vous déversez de violence et plus vous faites de dégâts, mais ce n'est pas pour ça que vous gagnez la guerre.
Bernard Guetta, il y a aussi le fait qu'on fournit aux Ukrainiens, qui est un peuple déterminé à se battre, hein, mais on leur fournit des équipements. Les Américains leur fournissent beaucoup d'équipements.
Les Européens ont
les
été
Européens,
les premiers à le faire.
Est-ce qu'on n'a pas peur? Est-ce qu'au sein du Parlement européen, certains de vos députés, vous ne vous dites pas bon, il ne faudrait quand même pas trop énerver la bête, qu'ils nous considèrent à un moment que les Polonais, ah ben allez hop, vous faites partie des colibés gérants.
Il y a peut-être quelques-uns de mes collègues qui se disent ça, mais la grande majorité d'entre eux, et moi le premier, ne se disent pas il ne faudrait pas trop énerver M. Poutine, mais nous nous poserons la question de savoir comment l'arrêter. L'énerver ou pas l'énerver, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est comment l'arrêter. Comment arrêter ces massacres? Comment arrêter ces bombardements? Nous avons tous vu les images de Mariupol. C'est absolument épouvantable. C'est absolument épouvantable. Non, écoutez, si vous me permettez, je regarde ces images défilées et je me dis que quand même, le plus énorme des mensonges, il est là sous nos yeux. Car enfin, cette armée qu'on fait défiler comme une armée victorieuse, glorieuse, etc. Mais pour l'instant, depuis 2 mois et demi, elle est battue, embourbée, ridiculisée, humiliée en Ukraine. Et son commandant suprême, le chef de l'État russe, qui a lancé son armée et son pays dans cette aventure sanglante et abominable, mais est non seulement un criminel, mais un clown. Et un clown, il a totalement perdu. Et je pensais, en regardant ces images, à la fable de l'enfant qui, finalement, dit que le roi est nu. Mais quand on regarde ce défilé, il faut avoir les yeux de l'enfant qui dit que le roi est nu, et dire, mais monsieur Poutine, ce n'est pas un défilé de la victoire, c'est le défilé de la défaite. De votre défaite.
Et général Paloméros, ça n'a rien à voir, mais quand même, je vais tenter ce parallèle. Les Américains, la première armée du monde, 20 ans en Afghanistan, ils sont arrivés à rien. Ils sont partis la queue basse. Les talibans règnent en maître, ils viennent de remettre la burqa partout. L'armée russe, la grande armée russe, elle va dans un pays qui est à ses portes, la petite Ukraine qui n'est pas équipée. Elle arrive à rien non plus. Qu'est-ce que ça dit quand même de ces grandes armées qui n'arrivent pas à faire des conquêtes qui, sur le papier, vu de loin, vu de la planète Mars, se disent « mais ça doit être très facile ».
Je crois que là, il y a deux perceptions et deux perspectives différentes. Le problème des engagements, par exemple, en Afghanistan, sur des théâtres lointains, c'est un peu le cas en Ukraine, malgré tout, c'est quel est le but ultime, finalement ? Le but ultime de ces engagements, le but ultime de la guerre, est-ce qu'il est clairement défini ? Et souvent, ce qui manque, c'est cette définition du but qui ne peut être que politique. Les armes elles-mêmes, les armées, les militaires ne peuvent pas déterminer à eux seuls. J'ai participé aux opérations en Libye, j'étais chef d'état-major de l'armée de l'air. je dois dire que je ne cessais de penser et de dire que, certes, l'opération militaire, c'est un succès, mais qu'il fallait réfléchir à l'avenir. Parce que, évidemment, on allait réussir à... Donc, y a vraiment cette question-là. Quel est l'objectif militaire, politique qui est derrière ? Et en Afghanistan, c'est typiquement la question qui s'est posée. Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi on ne va pas rentrer dans le débat de l'Afghanistan. Ouais, les Russes, ils ont laissé les Soviétiques.
Oui, eux aussi, ils ont laissé casser les dents.
Ils ont plus de morts d'ores et déjà dans les conflits en Ukraine que ce qu'ils ont eu en
Afghanistan. Que 10 ans d'Afghanistan, c'est incroyable.
Donc, exactement. Une armée, quelle qu'elle soit, aussi puissante soit-elle, si elle n'a pas un but, et derrière, ce que j'expliquais tout à l'heure, une stratégie. Et là, pour le coup, la stratégie russe, elle est défaillante, puisque Poutine a eu les yeux plus gros que le ventre, c'est-à-dire l'Ukraine va tomber, c'est du, comment dire en anglais, du wishful thinking. C'est pareil, il s'enferme dans sa boucle de réflexion, il se dit, mais c'est comme ça, puisque j'ai décidé que c'était comme ça, donc l'Ukraine va s'écrouler, c'est un château de sable, il y a des nazis, ils sont au pouvoir, et évidemment qu'on va s'attaquer au pouvoir, et tout ça va tomber d'un coup. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Il a complètement sous-estimé la force démocratique, si je puis dire, la volonté de résistance. Donc, c'est pas tellement la taille... Et en plus, son armée n'a pas la valeur qu'on lui prête. Qu'il lui prête.
Qu'il s'imagine. Alors là, on voit Vladimir Poutine avec son chef d'état-major, me semble-t-il...
C'est le ministre de la Défense.
C'est Sergueï Shoigu, lui.
C'est le ministre de la Défense, qui est aussi un militaire.
Toujours populaire, Isabelle Lasserre, de ce qu'on peut savoir ou de ce qu'on sait en Russie.
Sergueï Shoigu.
Non,
ou Vladimir
de Vladimir Poutine.
Poutine.
On disait que alors, ce sont des instituts de sondage russes, mais qu'avec la guerre, sa popularité avait bondi.
Il faut d'abord, je pense que sur ces questions-là, il faut rappeler que la Russie de Vladimir Poutine est redevenue une boîte noire dans laquelle on n'arrive pas vraiment à pénétrer et que c'est encore plus compliqué de comprendre ce qui se passe à l'intérieur du Kremlin que ça ne l'était à l'époque soviétique où on pouvait toujours guetter les sourcillements d'un ministre ou d'un membre du Politburo. Ces précautions d'usage étant faites, ce qu'on peut... En fait, savoir, c'est que les sondages de l'Institut Levada, qui est bon, indépendant, mais montrent que depuis le 24 février et depuis l'aggravation des sanctions occidentales contre la Russie, la population russe a eu plutôt tendance à faire corps avec Vladimir Poutine. Et c'est vrai qu'il y a, à part les Russes, l'élite et les milieux culturels qui ont fui très très rapidement le pays, ceux qui restent, ne disent mot, et alors ils soutiennent soit directement, soit indirectement. Ça peut être par indifférence, ça peut être parce que la réalité est trop difficile à confronter et que intellectuellement, c'est quand même plus pratique et que maintenant que la guerre est commencée, autant la gagner, ça ne préjuge pas de ce que dira ou fera la population russe dans 6 mois ou dans 1 an. Mais pour l'instant, force est de constater que les Russes ne descendent pas dans la rue et qu'ils sont plutôt unis derrière leur chef et qu'ils ont une rancœur vis-à-vis de l'Occident et de ses sanctions. Combien de temps ça peut durer, ça ?
Bernard Guetta, c'est décevant, ça, ce peuple russe qui ne renverse pas son tyran ?
Écoutez, si nous étions russes, vous et moi, en ce moment, sous M. Poutine, est-ce que nous descendrions dans la rue ?
Il y a des peuples qui se rebellent, il y en a qui baissent la tête.
Il y a des peuples qui se rebellent. À quel moment de leur histoire ? Dans ce moment-là, non. Ça, je ne le crois pas. Écoutez, la France occupée, elle a mis combien de temps à réellement se révolter contre Vichy ? Elle a mis le temps du débarquement. Mm-hmm. Bon, alors écoutez, soyons. Mais je voudrais ajouter une chose à ce que disait Isabelle. Je serai russe. Je recevrai un coup de fil. « Bonjour, Monsieur Guetta, nous sommes l'Institut de sondage des Levada. Nous voudrions savoir si vous soutenez le président Poutine. » « Ah non, je ne le soutiens pas. Je l'aime, je l'adore. » Enfin, tout de même. Vous imaginez vous répondre au téléphone « Ah non, non, je ne soutiens pas mais l'intervention en Ukraine ?»
Vous qui étiez correspondant là-bas.
Non,
il y a la liberté...
Petite précision, les sondages n'ont pas été faits au téléphone, justement.
Ouais.
Mais ils ont été faits...
Face à face
ouais, absolument.
C'est encore pire.
On a votre visage.
C'est encore pire.
Mais Bernard Guetta, vous étiez correspondant. Cette absence de liberté, ils en ont fait leur deuil, ils en souffrent, ils l'acceptent. Comment la vivent-ils, les Russes ?
Mais écoutez, il y a encore très 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 peu de temps, il y a eu d'énormes manifestations en Russie. Quand M. Navalny est revenu de, non pas de son exil forcé, de son traitement après la tentative d'empoisonnement dont il avait été victime, de son traitement à Berlin, et qu'on l'a réemprisonné tranquillement, tranquillement. Il aurait fallu emprisonner M. Poutine pour tentative d'assassinat. Non, on a emprisonné M. Navalny. Ben, écoutez, il y a eu des manifestations, non seulement à Moscou et dans les grandes villes, mais dans un nombre impressionnant de petites villes de province. Nous ne voyons pas tout de même que la Russie, le peuple russe, a manifesté pour la liberté et contre ce régime, bah, écoutez, jusqu'au dernier moment. Parce que quand il y a la guerre, quand il y a une situation de guerre, il est très très difficile de manifester contre le régime, contre le pouvoir en place.
Là, finalement, Jean-Paul, général Palomero, c'est vrai que ces cérémonies du 9 mai... On craignait un peu le pire. Hein. Bon, tout se passe comme prévu. Vous dites c'est un petit peu décevant. En revanche, physiquement, on voit un Vladimir Poutine qui... je dis ça parce que le New York Post, alors c'est un tabloïd, mais on a dit qu'il était malade. Le New York Post a affirmé qu'il allait avoir un traitement du cancer. Je ne sais pas si, Isabelle, vous avez enquêté. Bon, ce sont des rumeurs, des infos.
Personne ne peut enquêter là-dessus. Moi, simplement, ce que je remarque, c'est que depuis 2 ou 3 ans, Vladimir Poutine est censé être schizophrène, avoir un cancer du cerveau, un cancer de l'abdomen, la maladie de Parkinson, et je pense que j'en oublie d'autres. Ça fait beaucoup pour un seul homme, surtout que là, il a l'air assez vaillant.
Oui. Donc il y a de l'intoxication des deux côtés. Hein.
Personne ne sait.
Mais en revanche, les généraux qui l'entourent, écoutez, moi ça me frappe beaucoup, hein, ils sont, comme on dit en Provence, assez généreux.
Est-ce que vous voulez dire... Vous voulez dire que...
Bon, écoutez, ils sont plus gras que généraux.
Général Palomeros, on sait que le Sergueï Lavrov a agité la menace d'une troisième guerre mondiale. D'ailleurs, tiens, je vous propose qu'on écoute à ce sujet la réaction de Jean-Yves Le Drian, on l'a invité à réagir aux menaces de troisième guerre mondiale agitées par son homologue hein, russe. On l'écoute, il était interrogé au 4V il y a une dizaine de jours par Caroline Roux.
On est toujours dans la rhétorique d'intimidation. C'est pas nouveau, ces propos exagérés, injustifiés, qui ne correspondent pas du tout à la réalité, mais c'est une rhétorique agressive, escalatoire, qu'on connaît depuis le début du conflit.
Et qui vise à quoi ? Nous impressionner ?
Et qui vise à nous intimider, à nous dissuader.
Alors qu'est-ce qu'on fait face à cette escalade rhétorique alors est-ce qu'on ne peut pas envisager quand même qu'il y ait une escalade et qu'on aille plus loin et que Vladimir Poutine, face à une armée qui n'y arrive pas dans le Donbass, utilise, alors on dit toujours les mêmes choses, hein, des armes bactériologiques ou voire du nucléaire tactique, puisque contrairement à la France, les Russes disposent d'armes nucléaires offensives. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Ce sont de petites bombes nucléaires, nous expliquons, qui permettent de prendre un avantage quand vous êtes enlisé.
Non, bah, sur ce point, il est clair que notre approche de la dissuasion nucléaire est très différente. Moi, j'ai vu, quand j'étais donc à la tête du commandement de la transformation de l'OTAN, responsable des exercices de l'OTAN, quand on comparait nos exercices à vocation défensive aux grands exercices russes qui se passaient de l'autre côté de la frontière, en particulier en Biélorussie, ça se terminait. Les exercices russes se terminaient toujours par un simulacre d'emploi de l'arme nucléaire. Ça m'a toujours frappé. Parce qu'ils considèrent l'arme nucléaire comme le bactériologique, le chimique.
C'est quand même très inquiétant, ce
que vous dites. Il ne suffit pas de s'inquiéter. La peur n'est pas bonne conseillère. Il faut regarder simplement.
Mais ça veut dire que c'est dans leur mode d'emploi, quoi.
C'est dans leur mode d'emploi. Dont acte, c'est leur mode d'emploi. Il ne faut pas rentrer dans leur logique. Simplement, il faut montrer sa force. Et il faut, pour ça, être crédible. Et c'est ça l'objectif à la fois de l'OTAN, de l'Union européenne, et j'espère de plus en plus, on va avoir un discours aujourd'hui du président, j'espère qu'il va affirmer cette vocation d'autonomie stratégique de l'Union européenne à terme. C'est pas pour tout de suite, on le voit bien, il y a des tas de domaines où c'est pas possible. Mais au moins cette volonté de montrer sa force. Nous sommes prêts à nous défendre. Nous n'avons aucune volonté de vous agresser. Et puis de le faire savoir, dans des campagnes de communication, en disant mais attendez, nous ne sommes pas sous la botte de M. Poutine, nous ne sommes pas sous la botte de M. Lavrov, nous sommes libre, indépendant, nous soutenons les uns les autres, il n'y a pas de faille là-dedans, et nous allons continuer à défendre notre modèle.
Alors, dépôt de la gerbe. Oui, Isabelle Lasserre.
Oui, alors dans la doctrine nucléaire russe, il est fait une différence entre trois types de guerres différentes. La guerre locale, la guerre régionale et la guerre globale. Vladimir Poutine, lui, considère aujourd'hui que l'Ukraine, c'est une guerre locale. Et la menace nucléaire vise sans doute à éviter que la guerre locale ne se transforme en guerre régionale, c'est-à-dire une guerre avec l'Europe. Hein. La guerre globale étant la guerre contre les États-Unis. Mais moi, ce que je trouve très inquiétant, c'est que, bon, d'ordinaire, le nucléaire est quand même entouré d'un tabou.
Oui. Et ça, c'est là, quelque chose qui est... Là, tous les trois jours, ils en parlent.
Et là, c'est vrai que les Russes ont brisé le tabou au niveau verbal. Ils l'ont brisé par les déclarations et les menaces de Vladimir Poutine, de Lavrov, etc. Mais ils l'ont aussi brisé de manière presque clownesque, mais très inquiétante à la télévision. Enfin, est-ce qu'on peut, même en 1962, pendant la crise des missiles à Cuba, où là aussi le tabou avait été un petit peu brisé verbalement, mais même à cette époque, on n'aurait même pas pu imaginer que en fait des clowns, des humoristes fassent des plaisanteries avec l'arme nucléaire. Et ça. Ça, c'est quand même.
Alors, pendant que vous parlez, on voit le dépôt de gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Bernard Guetta, sur cette agitation du risque nucléaire par les autorités.
Écoutez-moi, il me semble que M. Poutine agite cette menace et fait agiter cette menace par ses hommes à la télévision avec deux objectifs très précis. Le premier, c'est d'essayer d'effrayer tellement les opinions publiques des pays occidentaux que ces mêmes opinions se tournent vers leur gouvernement en disant non, n'allez pas le fâcher parce qu'il pourrait
vous
envoyer...
C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas trop fâcher la bête.
Vous le disiez dans un autre contexte. Mais là, il y a véritablement cet objectif. Et puis, il y a un deuxième objectif. Comme les Russes, quand même, voient bien qu'au bout de 2 mois et demi, il n'y a pas de résultat très concluant. Alors, peut-être qu'ils ne savent pas à quel point c'est peu concluant. Enfin, il voit bien. Alors, il peut leur dire par là, M. Poutine, mais rassurez-vous, nous sommes de toute manière les plus forts. Regardez nos armements. Ah. Évidemment, le défilé répond aussi à cet objectif. Donc, je pense que ces gesticulations...
Viser intérieur et faire peur aux opinions publiques occidentales.
Faire peur aux opinions publiques occidentales afin qu'elles fassent pression sur leur gouvernement.
Mais ça induit une banalisation de l'utilisation.
Oui, il le ramène dans le jeu, quoi. Général Palomeros, est-il vrai qu'il ne peut pas décider seul, il a besoin de deux autres petites mains? Mais justement, est-ce que ce ne sont pas des pantins qui, de toute façon, lui obéiraient? Et s'il n'était pas d'accord, une balle et next.
Oui, alors c'est ça la doctrine russe et le mode de fonctionnement, c'est que c'est une troïka. Lui-même, son ministre de la Défense, qu'on a vu, le général Shoigu, et puis le général Gerasimov, qui est chef des armées. Mais... vous savez, les armées, la doctrine Gerasimov a bien montré que les armées étaient sous le contrôle politique, mais sous un contrôle très étroit. Donc, je doute un peu du fonctionnement de cette troïka. On ne peut pas présumer, ces sujets sont trop graves et trop lourds, ce qui se passe dans la tête d'un chef des armées. Le général Gerasimov est très respecté, je l'ai croisé par le passé. C'était un homme qui me paraissait sensé et logique. Maintenant... dans le système soviétique, dans le système russe.
Les élites militaires russes voient-elles avec désolation ce qui se passe et l'humiliation de leur armée dans le Donbass, ou suivent-elles aveuglément et passionnément le leader suprême qui éclaire le monde, à savoir Vladimir Poutine?
Il y a un élément là dont on a parlé beaucoup récemment, c'est la mort de généraux sur le front des troupes. Ça prouve qu'il y a une pression extraordinaire qui est mise par Poutine sur ses chefs militaires. Et je crois qu'il y a eu... c'est pareil, la logique de désinformation interne fait que tout le monde croit à une même vérité, quoi. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive, quelque part. Et même les chefs militaires, je crois, se sont laissés embarquer dans cette logique d'auto-satisfaction, sans voir ce qu'était la réalité, finalement, de leur armée. C'est un peu le syndrome de la tour d'ivoire. Et pour tous les chefs militaires, d'ailleurs, c'est un vrai risque. Hein. Si on ne reste pas au contact, si on n'a pas toute cette pyramide, et si on n'a pas confiance dans l'encadrement et dans ses subordonnés. À un moment donné, on peut être pris dans ce piège de se persuader que finalement, on a atteint un certain niveau capacitaire. Et donc, je crois que les chefs russes sont assez désemparés aujourd'hui par rapport à cette logique. Ils vont au front parce qu'il faut aller au front, ils y meurent pour certains d'entre eux. Et quant aux grands chefs, on voit bien qu'ils sont très asservis, quelque part, au pouvoir politique. Qu'ils soient à la main du pouvoir politique, c'est la moindre des choses. C'est vrai, en démocratie, là, ça me paraît aller beaucoup plus loin.
Isabelle, oui,
Bernard. Pour répondre à la question que vous nous posiez tout à l'heure, aucune armée, aucun état-major ne peut supporter une telle humiliation, ne peut supporter sans en souffrir, sans réagir. Ça, je ne sais pas. En ont-ils les moyens, etc. Mais
sans pourrait y avoir un Brutus là qui viendrait organiser, fomenter une révolution de palais. On le souhaite.
Alors écoutez, ça, vous savez, les Brutus, par définition, c'est imprévisible. C'est comme les révolutions, ça arrive au moment où personne ne s'y attendait. Bien sûr qu'il peut y avoir un Brutus. Et est-ce qu'il y aura un Brutus? Ça, c'est une question tout à fait différente.
Les services secrets américains n'arrivent pas quand même à infiltrer...
Non, écoutez, ils ont essayé pendant 40 ans ou plus sur Fidel Castro, ils s'y sont toujours cassés les dents. Alors, je pense qu'au Kremlin, c'est encore plus difficile qu'au... Je ne sais pas comment s'appelle le palais du président cubain. Je ne sais pas comment ça s'appelle.
Ils avaient assez bien prévu quand même les opérations russes, les services secrets.
Allez, justement, est-ce qu'on doit s'interroger sur les services secrets français? Je cite Christian Cambon, le président de la Commission de la Défense au Sénat, qui dit « Je ne peux pas trop en parler, mais il y a une petite crise quand même ». Il dit ça, évidemment, au sujet de l'éviction du général Éric Vido, qui est le chef du renseignement militaire français. Et c'est vrai que nous, visiblement, la France ne s'attendait pas à ce que Vladimir Poutine envahisse l'Ukraine. Les services de renseignement français ne l'avaient pas imaginé, à tel point, il ajoute... puisqu'on a vu ensuite Emmanuel Macron se rendre à Moscou sur cette fameuse table, et Christian Cambon dit « Si le président n'a pas les bons renseignements, c'est assez compliqué de mener les bonnes négociations. » Est-ce qu'il faut s'interroger sur nous? Il y a eu des ratés, là.
Oui, sans doute,
Isabelle Lasserre.
À la décharge des services de renseignement français. Moi, j'étais en Ukraine quand les Américains ont pour la première fois, annoncé l'imminence d'une offensive. Et les Ukrainiens n'y croyaient pas une seconde. Et moi, j'ai discuté avec le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense, et ils n'y croyaient pas une seconde. Donc je pense qu'il y a eu deux types de déni. Il y a eu un déni en Ukraine, parce que d'abord parce qu'ils se sentent en guerre depuis 2014, donc la guerre est une manière de vivre, en fait, enfin, en tout cas, intellectuellement. Et il y a eu un déni français des services de renseignement, qui est aussi, d'ailleurs, un déni... occidentale, à part les États-Unis, qui est, en fait, on n'a pas pu se mettre dans la tête de Vladimir Poutine. C'est-à-dire que, en fait, à partir de mêmes renseignements que les Américains, les Français ont dit non, c'est pas possible.
C'est pas rationnel. Possible.
Pourquoi? Parce que une telle guerre jouerait en défaveur des intérêts de Vladimir Poutine. Ce n'est pas rationnel, donc il ne peut pas le faire. Alors que les Américains, et on le voit bien, la différence de manière de traiter Vladimir Poutine, les Français continuent à lui parler, les Européens, alors que Joe Biden, lui, a dit non, ok, on ne parle plus avec Vladimir Poutine, ça ne sert à rien, il faut traiter la Russie de manière différente. Donc les Américains, eux, avaient compris que oui, c'était possible. Donc c'est pas une question de... Enfin, le général me démentira peut-être, mais plus qu'une question de
c'est une façon d'appréhender, de voir la Russie.
C'est l'interprétation des renseignements qui n'a pas été la même à Paris, à Washington et aussi à Kiev. Hein. C'est, voilà.
Parce que dans le renseignement, il y a le renseignement et il y a l'analyse qu'on fait de ces mêmes renseignements. Et je pense que les services français, comme... 99% des têtes pensantes en politique française se sont trompées dans l'analyse des mêmes...
Dans l'analyse, parce que, par ailleurs, il y avait un partage. Alors, les Américains ne donnent pas tout leur renseignement, mais une partie du renseignement américain, d'après ce que j'ai cru comprendre, avait été transmis aux Français.
Il est précieux, général Paloméros, ce renseignement. Oui, si l'Ukraine rencontre des succès, si, comme l'a affirmé le New York Times, il y a des généraux russes qui ont été abattus. Si la Moskva a été coulée, c'est peut-être, ne le saura-t-on jamais, mais on peut l'imaginer, grâce aux renseignements fournis par les Américains.
Oui, les Américains ou d'autres, on le saura un jour. C'est possible, ça fait partie du soutien, à mes yeux en tout cas. Je n'ai pas d'informations très confidentielles à dévoiler.
Au Mali, ils nous ont beaucoup aidés aussi, les Américains.
Bien sûr, heureusement qu'ils étaient là pour fournir en particulier des moyens, des drones.
C'est quoi ? Ce sont des satellites qui observent très finement la Terre et nous, on est moins fins dans...
Ça se situe à tous les niveaux. Il y a effectivement cette couverture satellitaire, mais il y a aussi tous les drones en particulier qui jouent un rôle, en particulier... En Ukraine, les écoutes. Il faut comparer ce qui est comparable. Dire aujourd'hui que nous avons les mêmes moyens que les Américains, ce serait aberrant. 750 milliards de dollars dépensés chaque année dans leur budget de la défense, ça serait quand même un peu outrecuidant. Donc, moi, je pense que les Américains ont d'autres moyens, des moyens plus sophistiqués, avancés. C'est à peu près certain, il faut avoir. Mais il faut analyser. Je crois que c'est très important d'analyser des crises telles que celles qu'on vit aujourd'hui, parce que c'est ça qui nous permet de progresser, de voir où sont les faiblesses, les forces et
voir
le lien.
La guerre en Ukraine, une guerre territoriale à l'ancienne qu'on imaginait impensable au XXIe siècle, ça doit nous amener aussi à... réimaginer la défense française avec des choses qu'on n'envisageait pas parce qu'on s'imaginait que de façon projetée au Mali ou...
On dit depuis plusieurs années maintenant, c'est pas récent, c'était à l'OTAN 2014, on travaillait sur la transformation des capacités, on a incité les chefs d'État à décider d'investir 2% de leur produit intérieur brut et ils ont accepté, un peu à ma grande surprise, mais c'était une bonne chose et les Allemands aujourd'hui ont d'ailleurs... finalement atteint cet objectif puisqu'ils ont décidé de doubler leur budget de la défense, ce qui n'est pas neutre. Oui, bien sûr, il y a des enjeux militaires. Il faut réfléchir à ce qu'on voit aujourd'hui, mais ne pas non plus miser sur les faiblesses de l'autre. Si vous voulez, je ne voudrais pas qu'on tire comme enseignement que l'armée russe est confrontée à des difficultés en Ukraine. Donc, tout va bien pour nous. Ce n'est pas aussi simple que ça parce que l'armée russe possède des capacités assez extraordinaires dans certains domaines.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, d'avoir décrypté ensemble. Et j'imagine, Bernard Guetta, Isabelle Lasserre, vous qui avez vécu à Moscou, que c'est avec nostalgie et tristesse que vous avez vu ces belles images du Kremlin, on peut le dire, dévoyées par Vladimir Poutine aujourd'hui. Merci.
J'étais du temps de Gorbatchev, c'était mieux. C'était mieux.
Voilà, le mot de la fin. Merci. À suivre Manon Aubry en interview politique. Et puis, on se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair. Bonne journée, à demain.